avec l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort.
Aujourd'hui, nous accueillons Francis Gruyer. Bonjour.
Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Lapourdi, bonjour. Samir Arbed, citoyen palestinien, membre du Front populaire de libération de la Palestine, a été arrêté le 25 septembre 2019, soupçonné d'être impliqué dans l'attaque qui a tué le 26 août dernier une Israélienne de 17 ans, Rina Schnerb, près de Dolev, une colonie située en Cisjordanie. Selon certains médias et l'avocat de Samir Arbed, un organe judiciaire israélien aurait accordé au service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet, la permission spéciale, je cite, « d'employer des moyens exceptionnels pour enquêter », fin de citation, dans cette affaire, autorisant de fait des méthodes s'apparentant à la torture lors de son interrogatoire. Au cours de son arrestation, Samir Arbed a été violemment frappé par les forces de sécurité israéliennes, puis il a été torturé lors de son interrogatoire, à tel point qu'il a été ensuite transféré dans un hôpital de Jérusalem-Ouest et admis avec des côtes cassées et insuffisance rénale et mis sous assistance respiratoire dans un état critique. En 1999, la Cour suprême d'Israël a statué que, bien que le recours à la torture et autres formes de mauvais traitements soient prohibées de manière générale, les agents du Shin Bet qui utilisaient des méthodes physiques d'interrogatoire dans des situations de bombes prêtes à exploser, c'est une citation, pouvaient échapper aux poursuites pénales ou même à une enquête. Depuis, les agents du Shin Bet ont torturé des centaines de Palestiniens en invoquant le risque d'une bombe prête à exploser et aucun d'eux n'a été poursuivi. Venons-en à une actualité toute récente. Il s'agit du plan de prospérité et de paix présenté le 28 janvier dernier à la Face du Monde, conjointement par le président américain et le premier ministre israélien. Ce plan américain, en violation des accords d'Oslo, officialise entre autres la reconnaissance de Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël, l'annexion par l'État hébreu de colonies israéliennes, soit environ 30% de la Cisjordanie, et la souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain. Les Palestiniens doivent aussi reconnaître l'État juif, désarmer la bande de Gaza sous contrôle du Hamas islamiste et renoncer à leur droit au retour. Écoutons maintenant le secrétaire général du COE, Comité œcuménique des Églises, dans sa déclaration du 29 janvier 2020, qui fait suite au plan de prospérité et de paix que nous venons d'évoquer. Je le cite, « Cette proposition octroie clairement à une des parties, Israël, les droits que ne lui accorde pas le droit international, tandis que l'autre partie, le peuple palestinien, perd une part du peu qui lui reste aujourd'hui, y compris la reconnaissance par le droit international de son occupation. Le peuple palestinien perd aussi son aspiration à devenir un État indépendant, viable, dont la capitale serait Jérusalem-Est. En bref, la communauté œcuménique des Églises encourage les membres de la communauté internationale à ne pas soutenir cette proposition en l'État. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte, qui regroupe les représentants des différentes communautés catholiques de Terre Sainte, a fait pour sa part une déclaration sensiblement analogue et souligne, sur un ton particulièrement ferme, que ce plan n'apporterait aucune solution, mais créerait, je cite, « davantage de tensions, plus de violence et d'effusion de sang ». Monseigneur Michel Saba, archevêque émérite de Jérusalem, a pour sa part indiquer la réalité telle que le conçoivent les États-Unis et Israël doit être corrigée. Ils doivent se rappeler le commandement que Dieu leur a donné, ainsi qu'au monde entier. Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Dirigeons nos pas maintenant vers cette autre réalité que sont les camps de réfugiés palestiniens. Un film récent, Wardi, film d'animation, à découvrir seul ou en famille à partir de l'âge de 9 ans. Ce film a obtenu de nombreux prix. Ce film nous entraîne au Liban, où existent d'autres 12 camps de réfugiés palestiniens qui représentaient 174 422 personnes en décembre 2017. Rappelons que le nombre de réfugiés palestiniens dans le monde qui vivent dans des camps de réfugiés représente près de 1 800 000 personnes. Avant de faire connaissance avec Wardi, une jeune palestinienne de 11 ans, qui vit donc au Liban avec toute sa famille dans un camp de réfugiés où elle est née, faisons un petit retour en arrière. Nous sommes en Palestine en 1948, en pleine guerre israélo-arabe, au terme du mandat britannique sur la Palestine. 531 villages de Palestine sont détruits. 800 000 Palestiniens sont obligés de prendre la route de l'exil. Ce que les Palestiniens ont appelé la Nakba, la catastrophe. Soulignons que plus tard, en 1967, guerre des six jours, ce sera au tour d'Emmaüs, Yalo et Bet Nuba qui seront entièrement rasés par l'armée d'Israël, entraînant l'exode de 10 000 réfugiés. Revenons au film Wardi. Nous sommes donc à Beyrouth, au Liban. Wardi, palestinienne de 11 ans, y vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l'un des premiers à s'y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi donne à son arrière-petite-fille, Wardi, la clé de son ancienne maison en Galilée, la jeune Wardi craint que son arrière-grand-père ait perdu l'espoir d'y retourner un jour. Comment raconter la guerre, la mort et surtout la perte d'un pays qui reste comme un horizon lointain mais si déchirant pour des générations? Avec la jeune Wardi, nous sommes plongés au cœur du questionnement comme de l'espérance. Il s'agit pour cette adorable gamine de ne jamais renoncer, même lorsque tout le monde autour d'elle semble fatigué ou désabusé. Vaillante, curieuse, elle sent bien que les livres et l'éducation sont bien plus importants que des gadgets tels que les smartphones. Elle a à cœur d'apprendre et de comprendre ce monde dans lequel elle vit. Rappelons qu'il s'agit d'un camp de réfugiés palestiniens qui, au fil des années, s'est transformé en ville. Une ville qui se déploie tel un labyrinthe, mais en hauteur. Chaque nouvelle génération construit son étage. Dans ce dédale, Wardi grimpe, saute, escalade. Agile parmi ces maisons suspendues au ciel, elle chemine dans ce labyrinthe architectural comme dans les souvenirs de sa famille. Chaque maison renferme une espérance brisée, un renoncement, mais aussi une histoire extraordinaire dans laquelle nous sommes invités à plonger. Le récit déroule le passé tel un album de famille. Nous découvrons d'ailleurs de vraies photos avec les visages de ces femmes et hommes, jeunes et adultes. Ils sont le réel, des personnages animés, et l'animation donne vie et parole à celles et ceux qui composent de grands récits de l'exil palestinien. Et parmi eux, nous retrouvons l'autre héros du film, l'arrière-grand-père de Wardi, Sidi. La figure de l'arrière-grand-père est absolument bouleversante, car elle est ce qui relie le présent au passé, mais aussi à l'avenir. Lui, qui a connu la catastrophe, sait combien l'avenir scolaire de sa petite fille est la seule chose la plus importante. Lorsqu'il lui donne la clé de sa maison perdue en Palestine, ce n'est pas seulement le poids d'une histoire qu'il lui transmet, c'est aussi une trace, une racine, une clé qui lui permettra d'ouvrir toutes les portes du monde. Ce film Wardi m'est apparu être un témoignage bouleversant d'une réalité palestinienne si souvent laissée de côté et aujourd'hui bafouée à la face du monde. Nous savons dans la foi qu'un jour viendra où justice et paix s'embrasseront. Avec Wardi, nous en avons pressenti les prémices. Au revoir. Thank you.
avec l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort.
Aujourd'hui, nous accueillons Francis Gruyer. Bonjour.